À votre santé. 180e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices, auditeurs de RVM. Nous sommes aujourd'hui tous les trois, n'est-ce pas ?
Bonjour les auditeurs et auditrices, c'est Daniel Cléo. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Et Christian Max.
Nous voilà donc à nouveau pour traiter avec vous quelques points d'actualité. Alors je crois que Christian a de brèves nouvelles du front à nous communiquer.
Oui, quand même, oui, de temps en temps. Donc, une bonne nouvelle, l'épidémie de grippe apparemment est terminée. Une moins bonne, on a une nouvelle vague de Covid-19, mais comme le disait le professeur Lacombe, c'est plutôt une vaguelette, confirmée par un médecin de Crépy, aujourd'hui même. Au niveau national, on est un taux d'incidence de 77 et dans l'Oise de 69. Mais ça cache une disparité suivant les communautés de communes, la plus touchée par l'épidémie étant la nôtre, la CCPV.
Voilà. Ça, c'est pas bien.
Oui.
Alors, bon. Une autre épidémie dont on a parlé un moment, c'est la variole du singe.
Oui.
Bon, il y a toujours quelques cas en France. Et donc, en semaine 14, le plus grand nombre de cas, 17 sur 18, ça a été dans le centre Val-de-Loire. Pourquoi ? Mystère. La Picardie, par contre...
n'est pas touché.
Pas bon. Trop touché.
Bon, heureusement,
on n'a
pas tout.
L'Île-de-France, mais pas la Picardie. Et bon. Je crois que Daniel, lui, avait connaissance d'un début d'épidémie beaucoup plus dangereux, à mon avis.
Oui, la méningite. J'ai entendu un reportage là-dessus. C'est assez surprenant, mais c'est très sournois et c'est vraiment caractérisé, là, actuellement. C'est pas terrible. Oui, c'est curieux. Donc, il faudra être vigilant. Voilà.
Oui, ouais, on va suivre ça.
Oui.
Alors, les plus touchés, toujours, en Covid-19, ce sont les tranches d'âge les plus âgées.
Tiens donc.
Les plus âgées qui sont touchées. Bon, ça a toujours été le cas.
Ça a toujours été le cas, mais là, vraiment, c'est très net. Quoi.
C'est très net. D'accord. Donc, confirmé, il y a une sorte...
Confirmé également par un médecin qui agit en médecin de retraite.
Ouais. Mmh. Donc, il y a une certaine immunisation de l'ensemble de la population, mais pas des personnes les plus âgées.
Alors par contre, bon, j'ai posé aussi la question de savoir si ça valait le coup pour les personnes âgées comme nous de se faire revacciner ou revacciner. Il m'a dit, pour l'instant, vaut mieux attendre que les épidémies redémarrent vers le mois de septembre-octobre.
Oui.
C'est le conseil qu'il m'a donné.
Bien.
Tu avais aussi un aperçu sur les décès. Tu avais eu un chiffre, il me semble.
Ben oui, parce que...
Ça,
le nombre de patients en soins intensifs diminue, la tension hospitalière diminue, mais par contre, la semaine 14, le nombre des décès a augmenté de 28%.
Ça, c'est curieux. Hein.
Mais on dit toujours qu'il y a un décalage.
D'une quinzaine de jours, oui.
Voilà.
Donc, ça correspond en fait au pic
de la vague
de l'épidémie il y a quelques semaines.
D'accord. Bon, on va passer à d'autres sujets. On va rester un peu dans notre département. Parce que on a appris, n'est-ce pas, Daniel, aujourd'hui même dans la presse, qu'il y avait à Beauvais aussi un désert médical.
Dans notre chef-lieu de département, oui, effectivement, on s'est aperçu que dans le quartier populaire, le quartier de Saint-Lucien, il y avait une médecin qui s'accrochait à son poste avec dévouement pour 3000 patients.
Et ça dure depuis un certain temps, je crois.
Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans.
Et
elle attend une remplaçante ou une aide, mais bon, apparemment c'est ficelé, mais bon, elle attend. Elle attend.
Je crois que c'est plus que de l'attente quand même.
Oui,
c'est son projet qu'elle exerce. Mais déjà, peut-être quelques éléments quand même sur sur ce quartier. Alors, qui elle accueille-t-elle ?
Elle accueille tout le monde. Alors, c'est de la folie parce qu'elle travaille jusque 23h, 24h et c'est de la folie. Quoi. Elle accueille tout le monde. Elle a dit, il n'y a pas de problème, moi j'accueille. J'espère qu'elle ne va pas exploser en vol, qu'elle va tenir le coup.
Alors, tu as le nom de ce médecin parce
que
c'est
Précile,
intéressant.
Oui, Précile, là tu vas me piéger. Hein,
prends ton temps pour
Précile,
le
dire. Précile Dikongue Nyambem. Donc, voilà, elle accepte tout le monde, ouais, voilà.
Oui. Bon,
alors,
voilà.
Par contre, il y a une chose qui l'a surprise, c'est que dans ses patients, elle s'est aperçue qu'elle avait des personnes qui arrivaient de Cergy-Pontoise, de Creil et de
Méru,
en disant, bah oui, mais nous, chez nous, on attend 12 heures, chez vous, on attend 3 heures. Alors, oui, effectivement,
12 heures aux urgences, je crois.
Ceci explique cela, mais c'est vraiment curieux, curieux.
Mais en tous les cas, elle ne dit pas qu'elle ne prend plus de patients.
Non, non, elle accepte, elle oui, accepte.
Elle prend, voilà.
Avec le sourire, apparemment, oui. aussi.
Alors, il y a quand même quelque chose qui l'a soulagée, c'est l'arrivée dans le quartier de...
SOS Médecin.
Voilà. Ouais. Et la structure, elle prend combien Je crois qu'elle prend aussi beaucoup de monde en charge, hein, la structure SOS Médecin.
Oui.
Plusieurs milliers de personnes,
oui.
Hein, je crois.
9500 patients, voilà, voilà.
Dans la dernière période. Voilà, mais au total, dernière... ils en suivent combien?
Il y a eu 20 000 suivis. 20 000
c'est
patients
énorme.
Suivis également.
Énorme.
Ouais, énorme.
Hein
ouais.
Donc,
20 000.
Pour une structure qui est SOS Médecin, en fait, en cas de fermeture des cabinets, hein, normalement,
si je
connais bien le système. Donc, voilà, bah, écoutez, moi... d'un côté, ça me fait du bien d'entendre qu'il y a un tel engagement d'une femme médecin. D'un autre côté, je me dis, mais où en est-on arrivé? C'est une situation, moi, ça, qui me fait penser à des pays, comme on disait, sous-développés ou du tiers-monde, ou je ne sais pas, mais en tous les cas, des pays qui n'ont pas le... PIB, comme on dit, de la France, le niveau d'installation, de structure, de formation, etc., de la France. Et finalement, on en arrive à cette situation-là. Et cette dame, je ne sais pas, médecin, si elle est née en France, mais en tous les cas, elle est d'un très grand dévouement. C'est quand même, en même temps... je pense, pour une ville comme Beauvais, je n'en reviens pas qu'il n'y ait pas eu de réaction de la part de la municipalité.
Il y a eu une réaction de la part de la municipalité, puisqu'elle veut financer l'installation de médecins libéraux.
C'est vrai.
Voilà, dans la ligne droite du...
Elle veut financer les études de jeunes médecins qui s'engageraient à s'installer en libéral.
Voilà.
Sauf que... Ton médecin t'a déclaré aujourd'hui, Daniel ?
Il a vraiment admis que de toute façon, ça avait coûté énormément d'argent public, ces histoires de maisons de santé, pôles de santé, etc., et qui restaient absolument vides, quoi. Alors, bien sûr, on avait trouvé une diététicienne, une pédicure et tout ça, mais des généralistes, zéro, zéro, zéro. Voilà.
Pour l'instant, pour parler du pôle de santé du Valois, j'y suis passé ce matin.
Oui.
Alors, précise, le pôle de santé du Valois, c'est celui qui est en face
de la
gendarmerie. Voilà. Ça, c'est le repère de tout le monde.
Voilà, oui. Donc, j'ai cherché à savoir quels étaient les médecins installés à la maison médicale. Et il n'y en a aucun. Pour l'instant, ce n'est pas ouvert.
Aucun n'est annoncé.
Non.
Et en fait, ce qui est installé à ce pôle de santé, c'est uniquement ceux qui existaient avant et qui ont déménagé.
Oui,
le centre dentaire de la Rutière, qui est tout à fait indépendant. Hein.
Le laboratoire et la radiologie.
Oui, voilà. Avec le scanner maintenant, ça c'est bien. C'est vrai, c'est vrai.
Voilà.
Mais... Les tarifs ont doublé, mais ça fonctionne.
D'accord. Alors, on va passer... toujours évidemment au niveau médical, et figurez-vous encore par la filière du cinéma. Je crois que tu as vu un film récemment,
Un téléfilm, c'était mardi soir, je crois.
Oui. Oui.
Ça s'appelle La Doc et le Veto, c'était le deuxième.
La Doc et le Veto.
La Doc et le Veto, donc c'est l'histoire d'une jeune doctoresse qui doit s'installer pour quelques années dans un désert médical pour avoir droit à une bourse d'études et qui se retrouve à faire cabinet commun avec le vétérinaire du village.
D'accord.
Et on voit bien quel est le quotidien d'un médecin de campagne. Et on comprend pourquoi les jeunes médecins, ils n'ont pas trop envie d'aller s'installer en libéral tout seul, perdu au milieu de la cambrousse.
Ouais.
Eh bien oui, bien sûr.
Je pense à ça parce que, comme en plus ça se passe en Auvergne et que c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, la dite région a choisi de salarier des médecins, mais elle veut salarier des médecins et les installer tout seuls comme ça au milieu de la cambrousse. Sans personne pour les soutenir. Quoi.
Oui.
Alors que ce que recherchent les jeunes médecins, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois, ils veulent travailler en équipe. ne veulent surtout pas se retrouver tout seuls au milieu de nulle part. Ouais.
Et où est-ce qu'ils peuvent travailler en équipe, Daniel ?
Dans un centre de santé. Et alors là, en plus, ils ont les congés payés, la sécurité sociale.
Voilà. Bien. Alors,
c'est intéressant parce que j'ai entendu récemment le docteur Jean-Paul Hamon, grand représentant des syndicats de médecins libéraux, qui avait déjà été particulièrement odieux lorsqu'il avait été interviewé par Elisabeth Lucet.
On continue. Hein,
et ben, il a continué parce qu'il a balancé comme ça tout de go dans une émission récente que les centres de santé, ça coûtait une blingue d'argent public.
Ça me rappelle un élu municipal de notre collectivité.
Quand on sait ce que ça coûte, le financement des maisons de santé qui restent vides, et tout l'argent qui est mis par les collectivités locales, et en particulier le département de l'Oise, pour attirer des médecins libéraux et qui ne sert qu'à attirer quelques cas, on se dit qu'il se fiche de nous, le docteur Hamon.
Vraiment, il n'est pas en contact du tout avec les collectivités locales qui financent, puisque c'est la présidente de notre conseil départemental qui a dit que maintenant, c'était fini la manne des subventions publiques pour construire des maisons de santé. Hein, et donc, maintenant, elle aide uniquement les étudiants qui se destinent à être libéraux. Voilà. Oui. Donc, elle reste dans la même ligne, mais bon. Alors, à côté de ça... Eh bien, toujours le cinéma qui nous, décidément, a ouvert ses pellicules au monde médical. Il vient de sortir, dans la semaine, le film qui a été primé, au Festival de Berlin par l'Ours d'Or, et dont le nom est assez mystérieux, sur l'Adamant. En fait, l'Adamant, c'est le nom d'une péniche qui est un centre de soins qui accueille en journée, donc en psychiatrie, centre de soins psychiatriques pour les patients parisiens, donc à Paris. Alors moi j'ai été vraiment émue, étonnée d'un tel engagement. Dans cette... ce que raconte le film, le documentaire, je ne l'ai pas vu, là. Je me contente de reprendre ce que dit la presse et je vous assure que j'irai le voir dès que j'en aurai la possibilité. Parce que c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils font, c'est du sur-mesure pour les patients. C'est du sur-mesure. Parce que, quand on a des problèmes qu'on voit en psychiatrie, c'est pas un antibiotique un doliprane
ou un
antidépresseur qui va résoudre votre problème.
Ou un plâtre.
Tout le monde sait que c'est toute une reconstruction. Je veux juste faire une parenthèse avant de revenir au film. J'ai bien connu deux infirmières qui travaillaient à l'hôpital psychiatrique de Clermont, bien connu. Le CHI, parce que c'était interdépartemental, cet hôpital, ce centre hospitalier. Et donc, à une époque, il y a 15 ans ou 20 ans, au moins, elles étaient complètement démoralisées parce qu'elles m'ont raconté l'une et l'autre qu'en fait, au lieu d'animer des activités, d'accompagner les patientes et les patients dans une reconstruction de leur personnalité, il fallait, c'était fini, il fallait aller plus vite et donc passer à des traitements médicamenteux qui, les enserraient dans un état d'apathie.
Calme. Les soignants étaient tranquilles.
Voilà. Et évidemment, il y a évidemment besoin de moins de soignants, moins de temps humain de soins. Hein. Et c'est une catastrophe, ça. C'est une catastrophe. Parce qu'après, quand ils s'en vont, ils sortent. Et bien, en fait, si à un moment donné, ils ne prennent pas leur traitement, c'est la catastrophe. Je voudrais juste dire une parenthèse. C'est qu'on dit que dans les prisons françaises, il y a un grand nombre de malades qui devraient être dans les hôpitaux psychiatriques. Je ferme cette parenthèse et je reviens au film. Parce que le film, si vous voulez, quelque part, souligne je reviendrai après sur ce qu'ils font, mais souligne l'état de la psychiatrie française. Et un journal dit tout simplement « La psychiatrie s'enfonce dans la crise, dans l'indifférence la plus totale. » Or, vous vous souvenez, chers auditrices, auditeurs, qu'on a parlé suite à la pandémie, et même pendant la pandémie, du nombre de jeunes, d'enfants touchés par des troubles psychiatriques et d'adultes. Aujourd'hui, on dit qu'un enfant sur cinq présente des symptômes dépressifs. 20%, mais c'est énorme. Qu'en France, il y a 12 millions de Français qui, chaque année, sont atteints par des troubles psychiques. Et écoutez bien, que le premier poste de dépense de l'assurance maladie, c'est la psychiatrie. Devant les cancers, quand on voit le coût quand même des traitements anticancéreux, les cancers, devant les maladies cardiovasculaires, et que c'est la deuxième cause d'arrêt de travail. Petit clin d'œil à ceux qui veulent faire travailler plus les gens qui sont plus longtemps, les gens qui sont au travail. Et ça s'explique aussi par quelque chose de tout à fait faramineux. C'est qu'en 20 ans, la France est passée, écoutez bien, de 130 000 lits d'hospitalisation psy à 50 000. 130 000 à 50 000. Mmh. Vraiment, l'hôpital public, il a été partout complètement démoli. Ouais. Donc, on est dans un état désastreux. Et je me suis renseignée un petit peu dans notre département et en tous les cas, surtout dans notre environnement. Voilà. Est-ce que nous avons des psychiatres? Eh bien, écoutez, je vous cite ce que nous avons comme psychiatres. La commune la plus proche pour nous, c'est Senlis. Eh bien, à Senlis, vous en avez deux qui sont ou non conventionnés ou en conventionnement à dépassement d'honoraires. Un avec un dépassement maîtrisé. Donc, ils sont tous en dépassement d'honoraires. Trois à Senlis. À Creil, ils sont trois, dont un au centre, dans un centre de santé. Et ils sont tous, eux, conventionnés secteur 1, donc remboursés 100% sécu. Compiègne, donc vous rendez compte, 3 pour le bassin créois. Alors, la ville la plus proche, après, c'est Montataire, il y en a un. Enfin, quand même, ça fait 4 pour le bassin créois, qui est le plus peuplé.
80 000 habitants.
Merci. Le plus peuplé de l'Oise. Compiègne, alors là, c'est plus à l'aise. 10 psychiatres.
Oh, c'est bien.
Il y en a 6 qui sont conventionnés secteur 1, 2 qui sont conventionnés avec dépassement d'honoraires, dit-on maîtrisé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et, miracle, un psychiatre de l'enfance et de l'adolescence. Mais attention, conventionné secteur 2, honoraire libre. Alors, vous voyez, avec tous nos enfants malades. Donc, franchement, on est dans une situation, on voit bien, de sous-médicalisation, on ne peut pas dire autrement, en termes de psychiatrie. Donc nous reviendrons sur cette question.
Je voulais Daniel. Préciser que le film là dont on parle, il est de Philibert, je ne sais plus son prénom, Nicolas. Nicolas Philibert, il avait fait un film sur la vie d'un instit en milieu rural en Auvergne, voilà, il y a quelques années. Oui. Donc apparemment, il sort un film tous les 10 ans et
travaille
gentiment.
Il en a fait d'autres aussi, le milieu médical.
Je l'ai entendu, il expliquait gentiment.
Mais je pense que nous reviendrons sur cette expérience et si nous pouvons, avec au moins un point de vue d'un médecin psychiatre.
Oui.
Eh bien, chères auditrices, auditeurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Vous savez que vous pouvez la réécouter sur le samedi, sur RVM 93.7, bien sûr, le samedi à 10h30, mardi 13h, jeudi 16h, et bien entendu, en podcast. Au revoir.
Au revoir, les amis.
Au revoir.